I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Ah, c'est bon, tout va bien.
Un podcast produit par Binge Audio. Je me trouve en ce moment avec une spécialiste des masculinités. Bonjour Mélanie Gourarier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être la première invitée des couilles sur la table, un titre chic et classieux. Au fait, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette expression ?
Bah, moi, je trouve ça finalement pas si mal que, voilà, que des femmes puissent s'approprier cette expression. Et ça montre aussi que les attributs, finalement, de la masculinité ne concernent pas que les hommes, mais peuvent s'approprier aussi aux femmes.
Mais ça veut dire quand même qu'avoir des couilles, pourtant, on dit pas avoir des ovaires, par exemple. Et donc, ça veut dire que le courage, c'est un attribut masculin, non ?
Alors moi, j'ai certaines copines qui le disent, qui n'utilisent pas j'ai des couilles, qui disent, voilà, moi j'ai des ovaires. Donc ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser cette expression.
Oh, bientôt, les ovaires sur la table.
Les ovaires sur la table.
Mélanie Gourarier, j'ai eu envie de vous inviter pour discuter avec vous pendant cette demi-heure, car vous avez publié cette année un livre qui m'a fascinée. Ça s'appelle « Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes ». Et c'est un résumé de votre thèse sur les séducteurs et la communauté de la séduction. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, j'ai envie de poser le cadre de cette émission. On parle des masculinités, parce que moi, quand j'ai étudié aux États-Unis, j'ai découvert l'existence d'un domaine d'études dont j'avais jamais entendu parler avant, qui sont les masculinity studies, donc les études de masculinité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, un peu partout dans le monde, il y avait des milliers de chercheurs et de chercheuses qui travaillaient sur les hommes, que ce soit en biologie, en anthropologie, en sociologie, etc. En France, ça existe aussi. Mais moi, j'ai envie de savoir, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur les masculinités ? Quel a été le déclic pour vous ?
Alors, le déclic, ça a été mon travail de thèse, en fait, où j'ai enquêté au sein d'un groupe de jeunes hommes qui veulent apprendre la séduction des femmes. Et très rapidement, je me suis rendu compte que partout et tout le temps, sur ce terrain, il était question de masculinité. Et en me renseignant un peu, moi, je viens des études de genre, je me suis rendu compte que finalement, il y avait assez peu d'études consacrées aux masculinités en France, contrairement à ce que vous venez de le dire. C'est un champ qui était beaucoup plus constitué, par exemple, aux États-Unis, en Australie et dans d'autres espaces universitaires comme ça. Et finalement, en France, il n'y avait quasiment aucune étude, très peu d'études encore. Et tout l'intérêt et tout l'enjeu pour moi, avec un groupe de collègues, Gianfranco Rebuccini, Florian Voros, avec lesquels j'ai travaillé très tôt, c'était de réfléchir à qu'est-ce que pouvait être l'approche des masculinités, mais dans une perspective de genre. Et c'était ça qui était, à mon sens, assez nouveau. C'est penser les masculinités, mais du point de vue du genre. Parce que finalement, des masculinités, il est question partout, tout le temps, mais de les penser finalement comme étant une identité, enfin comme une position sociale spécifique, ça, c'était pas encore tellement travaillé.
Mais à quoi ça sert, en fait, d'étudier les hommes et les masculinités comme ça ?
Alors, ça sert à les replacer dans des rapports sociaux plus généraux, donc dans leur position vis-à-vis des femmes, mais aussi dans des hiérarchies qui sont des hiérarchies entre hommes.
D'accord. Mais est-ce que... oui, donc en fait, ça prend complètement à rebours l'idée qu'il y aurait une nature masculine, qu'il y aurait un éternel masculin, qu'il y aurait une essence masculine et tout ça. On est d'accord qu'on ne parle pas du tout de ça ?
On ne parle pas du tout de ça. Et d'ailleurs, ce que vous dites, ça me fait penser que les premiers travaux, quand même, souligner cette historicité des masculinités, ça a été les travaux d'historiens. Et comme dans d'autres domaines des études de genre, effectivement, l'histoire nous apporte comme ça un éclairage sur le fait que finalement les identités de genre sont des constructions sociales et historiques qui sont travaillées par l'histoire, façonnées par l'histoire.
Ça veut dire qu'il y a plein de manières d'être un homme, en fait, à travers l'histoire. Ça montre bien qu'il n'y a pas de nature masculine, en réalité.
Ça veut dire que les modèles de masculinité masculinités telles qu'ils sont fabriqués, ce qui est conçu comme étant la masculinité, est valable à un moment donné, à une époque donnée, dans un espace géographique donné, dans un espace social donné aussi. Autrement dit, la masculinité, elle est nécessairement contextuelle. Il faut la saisir nécessairement dans son contexte.
D'accord. Et en fait, donc, pour réaliser un peu concrètement, qu'est-ce qu'on étudie, par exemple, quand on étudie les masculinités ? Sur quoi travaillent les chercheurs, par exemple ?
Alors, au final, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les masculinités, on peut travailler sur tout. On peut tout approcher avec
cet angle-là.
Exactement. C'est-à-dire que la masculinité, ça permet de penser des questions économiques, ça permet de penser des questions politiques, ça permet de penser des questions alimentaires, ça permet... Toutes ces questions-là peuvent être saisies à travers le prisme des masculinités. Et par exemple, un de mes dadas, je vais dire, c'est quand même de saisir le politique, la question du politique, à partir de la construction sociale des masculinités.
D'accord, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est finalement de voir comment est-ce que le pouvoir n'est pas seulement approprié par les hommes, ce sont les hommes qui exercent le pouvoir, mais aussi comment est-ce que la conception même, le rapport au pouvoir est une conception masculinisée, quelque part. Difficile de concevoir le pouvoir en dehors du rapport à la masculinité.
On peut pas imaginer, c'est difficile d'imaginer un pouvoir exercé par les femmes.
Alors là, il faut penser, quand je vous dis ça, il faut penser sortir la question de la masculinité de la question des hommes. C'est-à-dire que quand je parle de masculinité, je parle pas seulement des hommes qui l'incarnent, mais je parle aussi des rapports, enfin des femmes, etc. Des femmes. Il s'agit en fait de désapproprier en quelque sorte la masculinité de ceux qui l'incarnent et de réfléchir à qu'est-ce qui symbolise la masculinité, comment est-ce qu'elle est incarnée, comment est-ce qu'elle est façonnée par le monde social et en quoi est-ce que finalement il est difficile de concevoir le pouvoir en sortant d'une analyse, en sortant d'un examen qui relève aussi d'un examen de genre et des masculinités. Je vais vous donner un exemple plus concret. Par exemple, on l'a bien vu au moment des élections présidentielles en France et aux États-Unis, à quel point la conception du pouvoir était nécessairement adossée à une conception de ce qui relève du masculin et des masculinités. Il y avait une incarnation du pouvoir qui passe par une incarnation des masculinités. Cette incarnation dépasse le fait qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes politiques.
Donc, par exemple, Hillary Clinton était dans quelque chose, dans une incarnation assez masculine, par exemple ?
Alors, Hillary Clinton, oui, à certains moments, et c'est surtout dans les injonctions qui lui ont été faites, effectivement, et dans les critiques, c'est là-dessus d'ailleurs qu'on critique les femmes politiques, c'est sur leur trop faible incarnation d'un pouvoir masculinisé ou sur leur trop forte incarnation d'un pouvoir masculinisé politique. Donc, il n'y a pas de juste place pour les femmes. C'est soit trop, soit pas assez.
D'accord. Oui, on va lui dire qu'elle montrait trop ses émotions, qu'elle était trop émotive, qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions,
Était justement pas assez féminine. Pas assez capable d'exprimer ses émotions comme on l'attendrait d'une femme.
Voilà. D'accord. Et il y a une remarque qu'on entend souvent quand on s'intéresse à ces sujets-là, que ce serait antiféministe de s'intéresser aux hommes. Moi, j'ai entendu des amis à moi, des collègues et tout ça, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu t'intéresses aux hommes ? Après tout, on en parle tout le temps. Tout ce qui est fait, en fait, est fait pour les hommes. Donc, pourquoi encore parler d'eux, quoi ? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la place et parler plutôt des femmes ?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui m'a été opposé également quand j'ai commencé à travailler sur les masculinités, y compris par des collègues dans les études de genre. C'est finalement qu'on puisse, à un moment donné, sentir une crainte, une menace des études, du développement des études sur les masculinités qui minimiserait la part des femmes dans les études de genre, etc. Bon, à mon avis, là, il y a une confusion qui est faite entre parler des masculins, enfin, le fait qu'on imagine que les hommes sont partout tout le temps, c'est parce qu'ils sont finalement les sujets neutres de l'histoire. À partir d'eux que tout se pense. C'est-à-dire que c'est la norme universelle, finalement, la masculinité. Mais cette norme universelle, elle reste impensée. Puisqu'étant la norme, on ne la pense pas. On pense toujours, c'est considéré comme étant à la marge. Les femmes, l'homosexualité, les classes populaires, par exemple. En sociologie, on a mis beaucoup de temps à travailler sur les classes aisées. On a mis beaucoup de temps à travailler sur l'hétérosexualité, etc. On approche toujours ces objets à partir de la marge. Travailler sur la norme, ça a mis beaucoup plus de temps. C'est pourquoi ça a été plus difficile, plus long, de s'emparer de la question des masculinités.
Parce que c'était la norme, en fait. ça sert de référent universel,
c'est exactement
en fait.
Ça. C'est le référent universel. C'est à partir de la masculinité que tout se pense. On le voit dans la question de l'histoire. Comment s'est construite la science historique ? C'est à partir du point de vue masculin.
Vous avez fait une thèse sur la communauté de la séduction. Donc entre 2007 et 2010, vous avez passé 3 ans à rencontrer des membres de cette communauté de la séduction, à les observer, à mener des dizaines d'entretiens avec des coachs, à aller à des séminaires. Vous avez lu des milliers de pages de forums et de sites internet du genre... voilà, c'est des pages sur lesquelles on peut tomber et sur lesquelles toi aussi tu es peut-être tombée, cher ami, si tu as googlé un soir des choses comme « comment la mettre dans mon lit », »,« comment sortir de la friend zone », »,« comment draguer », »,« comment séduire une femme » ou « comment être un mec, un vrai ». Expliquez-nous, qui sont ces gens, combien sont-ils, quels sont leurs réseaux ?
Alors, ils sont assez nombreux parce qu'ils sont répandus à l'échelle internationale. Ils sont nés aux États-Unis à la fin des années 90. Il s'agissait à l'origine d'un groupe de parole entre hommes, donc non mixte, qui cherchait à discuter un peu de ce qui serait la condition masculine contemporaine. Et très rapidement, ils ont considéré que cette condition masculine était en souffrance. Elle était en souffrance à cause d'un affaiblissement de la position masculine dans les rapports de séduction. Et tout l'enjeu, c'est donc pour eux de reconquérir une place qu'ils auraient perdue dans le rapport de séduction. Mais en fait, le rapport de séduction leur sert à défendre une position sociale plus globale, finalement. Pas que dans le rapport de séduction.
Mais il faut peut-être se mettre dans leur tête avant pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Donc eux, ils pensent qu'en gros, ils sont émasculés, que les femmes ont le pouvoir partout.
Voilà.
Et qu'en fait, elles ont un immense pouvoir qui est le pouvoir... de leur refuser leurs avances.
Voilà.
En gros.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Il y a d'une part que la communauté de la séduction, elle fait partie de cette idéologie majoritaire aujourd'hui pour penser les masculinités, qui est le masculinisme, c'est-à-dire de concevoir, de penser la masculinité contemporaine à partir de la notion de crise de la masculinité. C'est-à-dire que on ne peut pas penser, il est très difficile de penser les masculinités aujourd'hui comme autrement qu'en souffrance, en raison des décennies de féminisme.
Oui, c'est un truc qu'on entend super souvent, voilà. Et pas seulement dans la bouche d'Éric Zemmour. Quoi, parce qu'en gros, il y a Éric Zemmour qui dit... voilà, il y a plus de vrai, les mecs c'est fini, voilà, les féministes nous ont castrés, c'est aller trop loin et tout. Et puis il y a cette idée un peu reçue où on dit bon bah à quoi sert le féminisme ? Le féminisme est allé trop loin, là ça va trop loin, l'égalité est déjà là. Et en fait, même ma grand-mère elle me l'a dit aussi, mais quand même les hommes, les pauvres, ils sont un peu perdus, ils savent pas comment être, c'est difficile pour eux, il faut les comprendre, etc. Donc c'est un discours qui est quand même assez répandu, quoi, y compris chez des gens qui sont pas du tout extrémistes ou qui sont pas spécialement misogynes. Ils disent que, en gros, c'est pas facile d'être un mec aujourd'hui, quoi.
Voilà, alors au risque d'être moi-même extrémiste, moi je pense que c'est le discours majoritaire, hein, c'est-à-dire que c'est l'idée la plus répandue aujourd'hui, c'est de dire que finalement, les hommes doivent s'adapter à un changement qui leur a été imposé et que ce changement qui leur a été imposé est à leur, finalement, défaveur. Ça, c'est l'idée majoritaire pour penser les masculinités aujourd'hui. Et c'est ce que pensent les membres de la communauté de la séduction. Et c'est pour ça qu'ils travaillent finalement retrouver une position de pouvoir dans le rapport de séduction, parce que pour eux, leur identité de genre masculine se joue dans cet espace-là où il faudrait reconquérir, à travers la reconquête des femmes, en fait, se joue leur identité masculine. C'est ce qu'ils pensent en tout cas.
D'accord. Ils pensent que s'ils arrivent à séduire les femmes qu'ils veulent, donc séduire, ça veut dire pour eux avoir un rapport sexuel avec elle, en fait.
Pas nécessairement.
Ah, même pas ?
Non, pas nécessairement. Ça dépend de l'objectif qu'ils se fixent. Mais par exemple, avoir un maximum de numéros de téléphone en un minimum de temps peut être largement suffisant pour eux pour se décrire comme un excellent séducteur. Il n'y a pas forcément la finalité du rapport sexuel. Ça, c'est aussi c'est ce que j'ai montré dans mon ouvrage, c'est que le rapport sexuel n'est pas nécessairement la finalité.
Mais oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ? Ils veulent pas tomber amoureux, ils veulent pas avoir une relation, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, en fait ?
Et c'est tout le propos de mon livre, c'est finalement ce qu'ils veulent, c'est s'apprécier entre hommes, c'est-à-dire s'évaluer, se hiérarchiser entre eux, mais aussi s'aimer entre hommes et à entretenir des liens. Alors voilà, ça a l'air, je vous vois sourire. Donc effectivement, il y a toute une dimension très homoérotique dans leur rapport. Ils ont tout un discours sur l'amitié masculine, par exemple, qui relève quasiment d'un discours amoureux. Mais donc tout l'enjeu de cette réunion très forte et très soutenue d'hommes entre eux, c'est à la fois donc de s'évaluer, de se comparer, si vous voulez, mais aussi d'entretenir des liens forts. Et là aussi, on le voit très bien. Les liens, il y a une nécessité pour la reproduction d'un, d'un groupe social et la défense de leurs prérogatives, de leurs intérêts, l'entre-soi est, un, est, est nécessaire, si vous voulez. Donc tout ce discours sur la nécessité de l'amitié entre hommes soutient en fait toute une structure, une reproduction aussi des intérêts masculins.
Juste pour qu'on comprenne, c'est pas la majorité des hommes dont on parle, c'est un petit groupe de quoi, de 30 000 membres à peu près, vous dites, en France. Mais quel est le rapport entre, donc, entre ces mecs-là, est-ce que c'est 30 000 gus, ou est-ce qu'en fait, quand on parle de tout ça, pour vous, on parle aussi des hommes en général, en fait. Est-ce que quand on lit le livre, on se dit, bon, bah, ok, eux, ils sont un peu extrêmes, ils sont dans des délires, voilà, ils pensent que les filles, c'est des proies, qu'il faut les chasser, ils vont chasser en meute, ils se donnent des grandes tapes dans le dos, ils disent qu'en gros, ils veulent pas être des gonzesses, et voilà, mais bon... C'est un peu particulier, quoi. C'est pas les mecs normaux, non, qui sont comme ça.
Ça m'a permis, moi, d'approcher comme une loupe, en fait, un phénomène social qui est généralisé. On voit bien à quel point la société est quand même structurée autour de, d'organisations non mixtes et à quel point des espaces, les espaces entre hommes sont nombreux, pluriels et très puissants encore aujourd'hui. Qu'on regarde un conseil d'administration d'une grande entreprise, qu'on regarde l'Assemblée nationale, qu'on regarde tous ces espaces-là, où finalement se joue la reproduction des rapports de pouvoir. Et ça, ça se passe entre hommes. Donc c'est des espaces de ce que j'appelle d'homosociabilité, où les liens entre hommes sont, se renforcent, se façonnent et se reproduisent. Donc la communauté de la séduction, elle a l'air anecdotique, parce que, mais en fait, elle est juste ce qui me permet de saisir un phénomène plus global. Alors moi, je suis anthropologue, donc je pars d'une enquête empirique très localisée pour essayer de saisir des phénomènes sociaux beaucoup plus généralisés.
Oui, parce que ça infuse en fait, en plus, leur idéologie ou leur technique et tout ça, ça influence... Enfin, ça influence les autres séducteurs, en fait, les autres hommes. Ils s'en
parlent
entre eux.
Moi, je prendrais la chose à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt le reflet.
C'est un concentré, en fait.
Ils sont eux le reflet de préoccupations sociales dans lesquelles ils sont imprégnés, si vous voulez. Ils sont pas extérieurs au monde social. Ce sont des jeunes hommes qui travaillent, qui font des études, etc. Et ces jeunes hommes reflètent en fait des préoccupations sociales qui sont celles de notre époque. Et c'est ces préoccupations sociales, l'émergence de nouvelles préoccupations qui m'intéressent en premier lieu.
Et comment ils voient les femmes ?
Alors, ils sont extrêmement misogynes. Ils voient les femmes comme majoritairement dans leur discours comme étant des cibles, puisque elles sont finalement...
Des targets, quoi.
Des targets, voilà, ouais. C'est ça. C'est ce qu'ils appellent ça, des targets.
Ils parlent beaucoup en anglais, hein. Ils ont tout un tas
Oui, la communauté étant américaine du Nord à l'origine, ils ont repris le vocabulaire et c'est tellement plus chic, pas forcément de le traduire et de l'employer encore en anglais, que voilà. Ils l'ont gardé comme ça. Mais oui, les femmes sont vues comme des outils, finalement, enfin pas des outils, mais elles sont un intermédiaire pour eux, pour pouvoir finalement renforcer leur rapport entre eux, entre hommes, hein. Elles sont pas du tout la visée de leur séduction ou de façon ponctuelle, mais très rapidement, par exemple, pour se positionner au sein de la communauté comme un grand séducteur, il faut exprimer un désintérêt vis-à-vis des femmes. C'est tout le paradoxe. Plus on monte dans l'échelle hiérarchique de la communauté de la séduction, plus moi j'ai été confrontée à un discours sur finalement les femmes, c'est quand même pas super intéressant.
Ouais,
on est quand même nettement mieux
entre
hommes, parce que l'amitié masculine, c'est une valeur supérieure à l'amour hétérosexuel. Ça, c'est clairement ce que j'ai retrouvé sur mon terrain.
Et ce qui se vérifie aussi peut-être donc dans les autres lieux d'homosociabilité.
Il suffit de regarder, par exemple, un film qui a eu un énorme succès comme Le cœur des hommes, où tout le propos est là. Peu importe les gonzesses, tant que nous, on se retrouve... moi, je vais reprendre votre vocabulaire, entre couilles. Voilà,
ouais,
on est bien et tout va bien.
Ouais, et c'est beaucoup plus intéressant. Il y en a même un dont vous rapportez les propos qui dit « En fait, les filles, elles sont interchangeables. Moi, elles ne m'intéressent plus. De toute façon, t'en connais une, tu les as toutes connues. Voilà, c'est... En fait, c'est vrai que c'est assez glaçant de lire ça quand on est une femme, quand on lit ce livre-là, parce qu'on réalise qu'en fait, on n'est plus du tout des êtres humains, en fait, pour ces types-là. On est juste... un moyen de se faire bien voir pour eux auprès des autres hommes, en fait.
Alors là, je dirais que là aussi, il ne faut pas le penser comme les accuser de façon individuelle. C'est leur discours, mais dans leur... Moi qui ai travaillé auprès d'eux, ils sont dans des rapports sociaux avec des femmes. Ils ont des collègues femmes, ils ont...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Des sœurs, des mères, ils ont des amies femmes, etc. Donc, ils ont des discours extrêmes, ce qui n'empêche pas qu'ils sont pris dans aussi une pluralité de rapports sociaux avec lesquels ils ont des échanges réels avec les femmes. Mais au-delà de ces échanges vécus et pratiqués, ils ont tout un discours nécessaire, une réaffirmation de la misogynie qui a une fonction et une force sociale extrêmement puissante. Et c'est ce discours-là misogyne qui m'intéresse. Et qui, je trouve, est particulièrement intéressant à analyser. Oui.
Alors, à quoi il sert, ce discours misogyne?
Il sert à reléguer tout ce qui relèverait de la féminité, pour valoriser tout ce qui relève de la masculinité. Et il sert, du coup, à renforcer, comme je vous le disais, des liens entre hommes, en fait. À renforcer des liens entre hommes. Et ces liens entre hommes sont nécessaires dans la reproduction de rapports sociaux qui ne sont et n'ont jamais été menacés, mais qui se perpétuent dans cette réunion homosociale, dans cette réunion entre hommes.
Mais donc ça veut dire qu'il y a des hiérarchies aussi entre eux qui sont très fortes. Et ça, je voudrais qu'on aborde ce sujet-là parce que, en fait, quand on commence à réfléchir aux masculinités, et donc on pense souvent, j'ai eu l'impression, on voit souvent la société comme les hommes en bloc contre les femmes en bloc. Et puis en fait, ce que vous montrez, ce que montrent les études en masculinité, c'est que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Plein de manières, il y a plein de masculinités en fait.
Oui,
donc là, c'est peut-être le petit moment de faire un petit point de cours, donc accroche-toi, c'est vraiment intéressant, il faut juste s'accrocher un tout petit peu. On va parler de la théorie des masculinités, de la masculinité hégémonique, les théories de Rawin Connell. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que raconte cette théorie?
En vous écoutant parler, j'allais y venir, effectivement. Et c'est là où c'est intéressant de penser les masculinités dans une perspective de genre. Avec mes collègues Florian Voros et Gianfranco Rebuccini, on a monté tout un séminaire autour de l'intérêt de s'approprier ce concept de masculinité hégémonique dans le champ des études de genre en France. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'effectivement, ça évite de réifier deux groupes, le groupe des femmes, le groupe des hommes, pour penser que à l'intérieur de chaque groupe, et en particulier nous, ce qui nous intéressait dans le groupe des masculinités, que l'incarnation des masculinités est un moyen de la hiérarchie des hommes entre eux. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est-ce qu'on incarne tel modèle de masculinité dans un contexte donné, eh bien, on va être socialement positionné. Il suffit de voir à quel point, par exemple, la masculinité incarnée par les personnes de la finance n'est pas la même que celle de la masculinité des garçons de banlieue qui est très fortement dépréciée. Et qu'en incarnant ce modèle de masculinité des garçons de banlieue, eh bien, on reproduit des inégalités sociales, des rapports sociaux, des rapports de pouvoir. Et donc, penser les masculinités, ça permet en fait de saisir aussi le fonctionnement de ces rapports de pouvoir, mais de rapports de pouvoir de race, de rapports de pouvoir de classe, des rapports de pouvoir d'âge ou de sexe. Vous voyez, c'est dans cette dimension aussi intersectionnelle.
D'accord, intersectionnel, ça veut dire qu'on prend en compte différents critères,
On prend les personnes telles qu'elles sont situées dans la société à un moment donné, donc en fonction de leur âge, de leur classe, de leur race, de leur sexe.
De leur validité, de s'ils sont valides ou pas.
S'ils sont valides ou pas, s'ils sont hétérosexuels, pas hétérosexuels, ou homosexuels. Si, voilà. En fonction
d'accord.
de tout, on fait tout ça un croisement de toutes ces, de la pluralité de l'individu au sein de,
oui, parce qu'on comprend bien
la position de l'individu.
Que bien sûr, si on est par exemple un homme de banlieue homosexuel, eh ben, on n'a pas du tout la même position sociale que si on est un hétéro blanc des classes sociales supérieures, par
exactement.
Exemple. D'accord. Et donc, Rowan Conan, elle dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la masculinité hégémonique. Donc, c'est-à-dire, c'est le modèle, en fait, c'est l'idéal. En gros, c'est quoi ? C'est Brad Pitt ?
Non. Bah, par exemple, on me demande souvent de définir ce qu'est la masculinité hégémonique. Et je pense que c'est non seulement pas nécessaire, mais pas possible. C'est-à-dire, et pas souhaitable. Dès lors qu'on définit ce qu'est la masculinité hégémonique, on la vide de tout son sens et on la réifie, on l'essentialise, etc. Ce qui est plus intéressant, finalement, la masculinité hégémonique, les masculinités hégémoniques, d'ailleurs, je vais employer le pluriel pour bien souligner ce processus, c'est quelque chose qui est nécessairement toujours en mouvement, qu'on ne peut difficilement saisir, et c'est finalement un rapport de pouvoir en tension, c'est-à-dire que les masculinités en position de pouvoir, pour se légitimer, sont constamment en train de déprécier d'autres types de masculinités.
Alors, quelles sont les masculinités qui sont dépréciées, par exemple, les masculinités subordonnées ?
Les masculinités subordonnées, je peux vous le dire peut-être plus facilement, clairement, comme je vous le disais, c'est les masculinités qui sont soit trop jugées comme trop efféminées ou trop viriles, trop masculinisées. Donc, par exemple, je vous citais l'exemple des garçons de banlieue, on voit bien qu'on n'évalue pas, par exemple, les affaires de harcèlement sexuel dans les hautes sphères de la société comme on les évalue dans les classes populaires. On parle de tournantes, de viols collectifs dans les banlieues et on va parler
séduction à la française, pour
DSK dans les... Voilà.
D'accord.
Et donc, et là, en fonction... Et là aussi, la masculinité va servir, en fait, de... Va situer les individus en fonction, encore une fois, du modèle qu'ils incarnent.
Mais par exemple, dans la communauté de la séduction, ils ont des modèles repoussoirs, quoi. Il y a des trucs qui les repoussent pour eux, pour qu'on comprenne, pour qu'on se représente bien. Donc pour eux, ce qui est dégoûtant, c'est d'être trop efféminé. Par exemple, ça leur fait super peur. Mais ils veulent pas non plus être des grosses brutes, quoi, en gros.
Voilà, c'est ça. C'est toute la ce que j'ai appelé un horizon inatteignable. Finalement, la masculinité comme horizon inatteignable, puisque finalement, elle se joue dans un espace qui est constamment en train de se redéfinir. Vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très difficile à expliquer, et parce que peut-être il faut renoncer à dire ce qu'est ce modèle, pour plutôt saisir les rapports de force qui se jouent et comment est-ce que finalement les mises. Là où c'est visible, c'est dans les mises en opposition, dans les contre-modèles. Et c'est dans ces contre-modèles-là, ça, on peut les identifier plus facilement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est l'efféminement qui est un contre-modèle, ou l'hypermasculinité, la brute, etc., qui sont relégués, qui sont des modèles dépréciés, marginalisés.
D'accord. Et il y a aussi cette notion qu'il y a des masculinités complices.
Alors, les masculinités complices, oui, c'est des masculinités qui permettent finalement aux modèles de masculinité en position hégémonique de se renforcer, qui sont donc des masculinités qui ne sont pas subalternes, mais qui ne sont pas elles-mêmes en position complètement de pouvoir, mais qui permettent de renforcer la norme de masculinité. Vous voyez, c'est des échelles hiérarchiques qui ont l'air très théoriques, mais qui permettent permettent, en fait, c'est ça qui, à mon sens, est le plus important à saisir, qui permet bien de saisir qu'il y a des hiérarchies et que ces hiérarchies se rejouent, sont un processus, elles sont dynamiques et qu'elles permettent de rejouer, de légitimer des positions de pouvoir. Ces positions de pouvoir-là, elles sont constamment contestées, constamment rediscutées, renégociées et renforcées finalement dans différents champs de la société.
Les types que vous avez étudiés, donc de la communauté de la séduction, eux, ils ont un idéal, quoi. Pour eux, un mec, c'est quelqu'un qui est un peu capable de montrer ses émotions, mais qui n'est surtout pas efféminé, et quelqu'un qui est capable de séduire toutes les femmes qu'il veut, mais donc qui n'a même plus besoin de les séduire parce qu'il est intéressé par des choses plus élevées que ça, en gros.
Alors là, ce que vous décrivez, c'est effectivement un des potentiels de transformation, une des modalités, de la transformation des masculinités contemporaines, c'est l'intégration, par exemple, de choses nouvelles comme la capacité à exprimer ses émotions. C'est quelque chose qui va aujourd'hui être fortement valorisé, le fait de pouvoir prendre soin aussi des enfants, etc. C'est des choses qui ne relevaient pas jusqu'à présent de masculinité modèle, on va dire, et qui sont aujourd'hui appropriées notamment par les hommes auprès desquels j'ai travaillé, comme étant des valeurs revendiquées, comme étant nouvellement masculines.
Et, bah c'est bien ça, non ?
Alors, c'est bien, sauf que en même temps que ce mouvement-là, où on va reléguer ces mêmes potentialités féminines, c'est-à-dire que les émotions, la capacité des femmes à exprimer leurs émotions, elle est évoquée comme étant inférieure, même, je dirais, inauthentique. Autrement dit, ce seraient des émotions forcées qu'exprimeraient les femmes pour un peu essayer d'amadouer les hommes,
pour manipuler, quoi.
Pour manipuler, alors que les émotions des hommes serait plus authentique. Donc on a toujours ce discours de mise en opposition des masculinités et des féminités, y compris quand le nouveau modèle de masculinité cherche à se réapproprier des modalités qui ne relevaient pas de la masculinité aujourd'hui et qui relevaient plus du féminin. C'est-à-dire que ça n'implique pas nécessairement, et ça c'est
une revalorisation du féminin.
Ça
en
n'implique
fait.
Pas une marche vers l'égalité. C'est-à-dire que c'est quand les hommes se récupèrent des choses qui relevaient jusqu'alors plutôt du domaine du féminin, ça n'implique pas qu'il y ait
qu'il y ait plus d'égalité.
Voilà, exactement. Ça, c'est aussi très important, je pense.
C'est surprenant, ça, parce qu'on se dit... On se dit, bon, bah, ils sont sympas, ces types. C'est comme... Ça me fait penser à un passage du bouquin où vous dites... Vous expliquez comment... leur rapport au sexe et à la sexualité. Et donc, ils sont complètement obsédés par l'orgasme des filles, quoi. Ils veulent absolument savoir comment faire jouir une fille, comment faire le meilleur cunnilingus, comment faire des choses comme ça. Et donc, on se dit, bah, c'est bien, ils sont altruistes.
Voilà, et bien pas du tout en fait, et ça on le retrouve dans la communauté mais ailleurs, dans d'autres discours, on se rend compte que quand il y a un discours en faveur de l'orgasme féminin, ça peut être aussi à finalité de contrôle de la sexualité des femmes. Je donne un exemple assez connu d'une scène de Barbarella, du film Barbarella, où finalement Barbarella elle est dans la machine de l'excès et elle a un orgasme, mais en fait, cette machine, elle tue les femmes en leur donnant des orgasmes. Et c'est un homme qui le contrôle. Alors, je ne me souviens plus le nom du savant fou qui contrôle cette machine. Mais finalement, on voit bien que l'idée, c'est qu'un homme qui s'approprie l'orgasme féminin pour tuer les femmes. Quoi. C'est très clair.
Oui, mais là, ils ne veulent pas faire ça.
Alors, ils ne veulent pas tuer les femmes, évidemment. Mais en tout cas, en donnant des orgasmes aux femmes, en connaissant bien la sexualité des femmes, ils se situent comme étant d'excellents séducteurs et comme étant des hommes d'exception. Donc, plus on donne un orgasme à une femme, et plus finalement on est un homme d'exception.
Mais ce n'est pas l'orgasme de la fille qui les intéresse.
En fait, les filles
les intéressent pas en soi. C'est pas une finalité en fait. Ce ne sont que des moyens.
Pas dans leur discours, mais je pense que ça dépasse largement les membres de la communauté de la séduction. On voit bien à quel point c'est aussi une manière d'être un bon partenaire sexuel est une manière de s'apprécier soi-même. Et alors ça me permet de vous dire une autre chose que j'avais envie de vous dire que je trouve assez importante. C'est finalement en même temps qu'il cherche à favoriser l'orgasme féminin, à même donner, à libérer en quelque sorte la sexualité des femmes, j'emploie ce terme parce que c'est le terme qu'ils utilisent, eux-mêmes, ils cherchent à contrôler leur propre sexualité. Et tout l'apprentissage qu'ils vont faire au sein de la communauté de la séduction, c'est un apprentissage en fait du contrôle de soi. Alors ça, c'est très important pour plein de choses parce qu'on est là dans une perspective vraiment qui est celle du développement personnel, dans beaucoup de discours qu'on retrouve aujourd'hui. aujourd'hui sur la nécessité que pour se libérer, il faudrait se contrôler soi-même. Et que finalement, moi, l'analyse que je fais de cet autocontrôle-là, c'est que ce que me montre cette enquête, c'est que l'apprentissage de la masculinité qui passe par l'apprentissage du contrôle de soi est une manière d'incorporer, de pratiquer pour soi-même le pouvoir pour pouvoir mieux l'exercer sur les autres. Et ça, c'est un point très important, à mon sens, de l'apprentissage de la masculinité, c'est qu'à quel point la masculinité est un apprentissage de l'autocontrôle.
Qui sert ensuite à exercer le pouvoir. Je comprends mieux pourquoi vous dites que être un homme, c'est apprendre les techniques pour exercer le pouvoir aussi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est exactement ça qui m'a intéressée. C'est que finalement, si on considère qu'il y a un rapport entre pouvoir et masculinité, comment est-ce que concrètement il se met en place ? Eh bien, à mon sens, une des manières de cette transmission et de cette reproduction du pouvoir en lien avec l'apprentissage de l'identité de genre, c'est qu'effectivement, l'apprentissage de la masculinité passe par un contrôle de soi, et ce contrôle, il s'est traduit dans le contrôle de son propre temps, dans le contrôle de ses émotions, dans le contrôle de sa sexualité, dans le contrôle de son économie, etc.
Et ça, ce sont des outils qui vont servir à exercer le pouvoir ou à le conquérir.
Voilà.
Donc
pour le dire simplement,
c'est parfait,
c'est
quoi.
Ça.
D'accord.
Ouais.
Ok. Ouais. Bon, j'ai une dernière question qui est plus perso, qui est en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre ce qu'on apprend de façon théorique sur les masculinités, tout ça, et notre propre vie, en fait ? Parce que j'ai l'impression que ça transforme complètement la manière dont on vit après ses relations, sa vie amoureuse, personnelle et tout. Comment vous, est-ce que vous ça... Moi, déjà, je trouve que ça transforme.
Je vais parler de ma vie sentimentale, je sais pas si je suis un exemple.
Est-ce que vous, ce que vous avez étudié, à changer votre rapport au monde, aux autres et à vos relations ? Et si oui, comment ?
Alors, moi, je pense, évidemment, ça le change en permanence. Mais je pense que ce n'est pas propre à mon étude, c'est propre à notre métier. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est d'essayer de voir comment les choses se construisent, comment les choses sont produites par le social, etc. Et donc de déconstruire, d'être dans une approche critique en fait du monde social. Et du coup, effectivement, je pense qu'on est amené à avoir un regard très critique de déconstruction sur les rapports sociaux, sur les normes, etc.
Oui, mais par exemple, moi, je commençais à lire beaucoup là sur... ça fait un moment que je lis sur les hommes, les masculinités et tout ça. Mais c'est vrai que je vois plus du tout même mon frère de la même manière ou mon père ou la manière dont ça a été élevé ou mes amis et tout ça. C'est parce que je vois bien ce qui est en train de se jouer pour eux. Par exemple, quand je vois des hommes jouer entre eux ou être entre eux, je vois des choses que je ne voyais pas du tout avant. Par exemple, la manière dont ils sont toujours en train d'essayer de se faire mal, par exemple, pour montrer qu'ils ont pas mal, ce genre de truc. Enfin, et ça, j'aurais pas remarqué, en fait, avant. Donc, ça transforme un peu le regard, non ?
Ah, ça transforme complètement le regard, mais je dirais de façon réjouissante et souhaitable.
Pourquoi ?
Ben parce que je pense que c'est le moteur de la transformation sociale, pour le coup.
D'accord. Bon.
Et de l'action politique.
Donc, en fait, ça sert au féminisme.
Ça sert au féminisme, mais pas seulement. Ça sert à toutes les luttes. La transformation du regard est pour moi un outil extrêmement puissant de la transformation sociale. Ça, c'est certain. Ouais. Et en même temps, c'est un travail sans fin, puisque les normes ne disparaissent pas, elles se transforment. Donc, il n'y a pas de fin à ce travail de déconstruction.
Il faut sans arrêt être en train de déconstruire. On ne pourra pas un beau jour déconstruire complètement la masculinité, comme ça on n'en parle plus, et puis et voilà, c'est pas possible.
Alors c'est pas possible, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement du monde social est comme ça, et on aura toujours quelque chose à déconstruire et quelque chose contre lequel se battre. Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle en fait.
D'accord. Vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Là, je travaille sur les tests ADN utilisés dans les procédures d'immigration aux États-Unis.
Ça aussi, ça fait partie de l'étude des masculinités ?
Alors, un petit peu moins. C'est plus sur l'étude le rapport à la paternité. Mais c'est toujours sur la question des modes de contrôle et de pouvoir.
Et pour finir, est-ce que vous avez une œuvre qui vous a marqué, que vous avez envie de recommander, un livre, un film, une série
Alors, le livre que j'ai lu, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les sentiments du prince Charles. Alors, c'est le livre, je me souviens jamais.
Strömquist,
merci beaucoup, qui est une féministe suédoise. C'est ça, elle est suédoise.
Oui, elle est suédoise, ouais.
Et j'ai adoré cette
bande
dessinée.
Ah ouais, moi aussi, elle est extraordinaire, cette bande dessinée.
Je la recommande à tout le monde. Parce qu'elle parle de façon, je trouve, extrêmement drôle et didactique et puissante et en même temps tout à fait juste et très documentée de la façon dont l'amour est une des arènes des rapports de pouvoir entre hommes et femmes.
L'amour est une des arènes des rapports de pouvoir entre hommes et femmes. Oui, c'est-à-dire qu'on pense qu'on était tranquille dans sa sphère amoureuse et en fait, dans nos relations amoureuses, se joue aussi plein de rapports de
et
pouvoir.
Dans nos manières, de ressentir. Pourquoi est-ce qu'on ressent tel type d'émotion, etc. Et je trouve que c'est aussi un ouvrage qui permet de désindividualiser les sentiments amoureux, de pas penser qu'on les ressent parce qu'on est un individu unique, mais de montrer que ça s'inscrit dans des logiques sociales beaucoup qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus larges. Et là encore une fois, de reprendre un petit peu de capacité d'agir.
Ah oui, j'ai adoré moi aussi cette bande dessinée, je l'ai offert à plein de gens. C'est vraiment le cadeau idéal pour votre copine qui est en plein chagrin d'amour et votre
pour la déculpabiliser.
Et puis aussi, en fait, c'est vraiment une super lecture pour tous ceux qui ont des rapports amoureux, quoi. Ouais. C'est vraiment super. Les sentiments du prince Charles. Ok, eh bien merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis
merci
à dans
beaucoup,
deux semaines. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Envoie-le à ton frère, ton mec, ton père, ta copine et raconte-leur ce que tu as appris. Compte sur moi pour te mettre plein de références, de liens, de trucs à lire et à regarder pour prolonger le sujet sur binge.audio. Et si ça t'a plu, mets des étoiles, plein d'étoiles sur iTunes. C'est important, comme ça le podcast devient plus visible et moi je pourrai continuer plus longtemps. Et puis mets des commentaires aussi, et des gazouillis, et des tweets, des mails et des messages Facebook. Et puis tu peux m'écrire aussi parce que j'aime bien discuter. Merci, bisous, à bientôt.
Binge. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.